Jésus donc disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent : Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, toi, vous deviendrez libre ? Jésus leur répondit : Amen, amen, je vous le dis. Quiconque fait le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Mais vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi, je dis ce que j'ai vu auprès du Père. Vous aussi, faites donc ce que vous avez entendu du Père. Ils lui répondirent : Notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit : Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a pas fait cela. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent : Nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne connaissez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Vous êtes de votre Père, le diable, et vous voulez faire les désirs de votre Père. Lui, il était homicide dès le commencement. Il ne se tenait pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de ce qui lui est propre, car il est à la fois le menteur et son père. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me confondra en matière de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi vous ne me croyez pas ? Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Si vous n'entendez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent : N'est-ce pas nous qui avons raison de dire que toi, tu es un Samaritain et que tu as un démon ? Jésus répondit : Moi, je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père, et vous me déshonorez. Moi, je ne cherche pas ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs lui dirent donc : Maintenant, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis : Si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Serais-tu, toi, plus grand qu'Abraham, notre père qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts, qui prétends-tu être ? Jésus répondit : Si c'est moi qui me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites : Il est notre Dieu. Et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a été transporté d'allégresse à la perspective de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent : Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ? Jésus leur dit : Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple.
Depuis quelques semaines, nous assistons à des échanges de plus en plus tendus entre Jésus et son auditoire, ses interlocuteurs. De plus en plus d'auditeurs s'indignent contre ses paroles et contre ses affirmations. Face à ces affirmations extraordinairement fortes, ils crient à l'imposture ou au blasphème. Jésus, on l'a vu ces dernières semaines, se présente comme le Fils de Dieu. Il se présente comme celui qu'il faut connaître pour pouvoir connaître Dieu. Quelle incroyable revendication. Mais Jean, en rédigeant ce récit, nous place, une fois de plus, face à l'ampleur de l'enjeu. Et si Jésus était bien celui qu'il dit être ? Et si c'est lui, dans ces dialogues qui disaient la vérité. On va assister à un débat serré et intense entre Jésus et ses interlocuteurs. La discussion du texte qu'Églantine vient de lire porte sur plusieurs thèmes et je vais les désigner à chaque fois par une question. Tout d'abord, qui est libre ? Ensuite, à qui ressemblons-nous ? Et enfin, qui est vraiment Jésus ? Et on va voir que pour chacun de ces sujets, Jésus s'attaque aux présupposés de ses auditeurs. Et en fait, il les place à chaque fois devant ce choix radical. Soit Jésus est bel et bien le Fils de Dieu, soit il est bel et bien Dieu, en fait, soit il est le pire des imposteurs et des blasphémateurs. Qui est libre ? C'est la première question qui se pose en arrière-plan de ce texte. Il y a quelque chose de très étonnant au début de ce texte, je ne sais pas si vous l'avez repéré au moment de la lecture, quelque chose qui a donné lieu à plusieurs interprétations. Au verset 31, on voit que Jésus s'adresse, je cite, « aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui ». Donc tout va bien. On imagine un dialogue encourageant, positif entre Jésus et des nouveaux disciples. Pourtant, on voit, en lisant le texte, que très rapidement, les choses se corsent. Il suffit de voir comment la conversation se termine. Au verset 59, les personnes qui écoutent Jésus ramassent des pierres pour essayer de le lapider. Donc on a envie de dire qu'avec des disciples comme ça, Jésus n'a pas besoin d'ennemis. Mais comment comprendre cet écart entre la description qui nous est donnée au verset 31, des Juifs qui avaient placé leur foi en Jésus, et ce qui se passe ensuite ? Plusieurs hypothèses, mais la plus probable sans doute, c'est que Jésus met volontairement à l'épreuve ceux qui ont dit croire en lui, ceux qui ont affirmé croire en lui. Et depuis le début de l'évangile de Jean, on voit qu'il y a une différence entre la prétendue foi et la foi authentique. Au verset 32, il leur précise que s'ils veulent être véritablement ses disciples, eh bien, ils doivent demeurer dans sa parole. S'ils reconnaissent que ce que Jésus dit est vrai, alors ils connaîtront la vérité. Or, dès leur première réponse, on va les appeler ces adhérents au message de Jésus, adhérents initiaux, eh bien, ils vont déjà remettre en question les affirmations de Jésus. Jésus commence par leur dire qu'ils ont besoin de liberté véritable. Et en gros, ils lui répondent « Mais de quoi tu parles ? On n'a pas besoin de liberté. On est esclave de personne. » Et Jésus va préciser ce qu'il entend par l'esclavage et la liberté. Ses interlocuteurs viennent de protester qu'ils sont descendants d'Abraham, c'est-à-dire qu'ils sont membres du peuple choisi par Dieu. Et cette filiation d'Abraham, ils la vivent comme une fierté, comme un grand privilège. Et ce qu'ils disent à Jésus, c'est « on n'a pas besoin que tu nous rendes libres, on fait partie des descendants d'Abraham, du peuple élu, nous avons Dieu de notre côté, alors nous n'avons pas besoin de la prétendue libération ». Alors aujourd'hui, dans notre contexte, on dirait les choses différemment, mais je crois que la conclusion serait à peu près la même. On dirait, mais j'ai pas besoin d'être libéré, d'être sauvé. Sauvé de quoi ? Pas besoin d'être sauvé. Très honnêtement, ma vie, je la gère. Peut-être pas parfaitement, c'est sûr, mais je vois pas en quoi j'aurais besoin d'une intervention extérieure pour me sortir d'une prétendue perdition. Sans doute ce que la pensée dominante aujourd'hui lorsqu'on parle de salut. Mais voyons quelle était la réponse de Jésus à ses interlocuteurs. Amen, amen, c'est-à-dire vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment, je vous le dis, quiconque fait le péché est esclave du péché. La réponse de Jésus, essentiellement, c'est la suivante. Vous croyez être libre, mais en réalité, vous êtes esclave. Esclave non pas d'une personne ou d'un pouvoir politique, mais esclave de votre péché. Autrement dit, désobéir à Dieu et vivre contrairement à sa volonté, c'est plus fort que vous. Vous pensez être des personnes spirituellement privilégiées, mais en fait, vous êtes des personnes spirituellement désespérées. Et Jésus confirme ici le verdict de toute la Bible. Ce qu'il dit là, il le dit à des Juifs à son époque, il aurait plutôt tout aussi bien le dire à des Parisiens aujourd'hui. L'homme s'est perdu, tout simplement. Il s'est égaré loin de son Créateur. Et par un terrible cercle vicieux, il est dans le déni de cette perdition. Il pense aller dans le bon sens. Il pense réussir sa vie. Il pense saisir les opportunités, il pense vivre à fond l'instant présent, alors qu'il ne fait que se rapprocher inexorablement de l'abîme. L'homme est incapable par lui-même de vivre pour Dieu. Alors, soit il nie Dieu entièrement, c'est la solution athée ou agnostique, soit il se construit un Dieu à son image, un Dieu qu'il pense pouvoir contrôler par ses bonnes actions, un Dieu à mi-chemin entre le Père Noël et l'ange gardien, ou le distributeur peut-être. Et ça, c'est la solution de l'idolâtrie, ou on pourrait même dire de la religion humaine. Voilà pourquoi Jésus, comme le reste de la Bible, nous dit que, livrés à nous-mêmes, nous sommes esclaves. Alors, admettons un instant que ce verdict soit juste. Admettons un instant que la condition spontanée de l'homme, c'est d'aller à sa perte. Qu'est-ce qui peut le sortir de cette situation désespérée, de ce terrible gouffre? Qu'est-ce qui va pouvoir le sortir de là? Est-ce que ce sont les pseudo-évangiles, l'aspartame de l'humanisme moderne qui vont pouvoir le tirer de là? Vas-y, crois en toi, vis ton choix, assume ta vérité et meurs. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt une voix puissante, choquante, douloureuse pour tirer l'homme de cette perdition? Et Jésus nous invite à entendre sa voix choquante qui nous arrache de notre égarement et qui nous ramène à la maison, dans les bras de notre Créateur, libérés pour vivre une vie de joyeuse appartenance à lui. Et vous et moi, est-ce que nous sommes libres? Est-ce que notre condition naturelle est la liberté? Se pourrait-il que notre civilisation occidentale, avec ses promesses souvent factices et superficielles, ressemble à une cellule de prison dans laquelle on a installé la clim, le Wi-Fi, un distributeur de canettes, une bonne série télévisée? On me dirait que c'est toujours mieux qu'une grotte au Pakistan, peut-être. Mais est-ce que c'est la liberté? Pour Jésus, le chemin de la liberté passe par lui et par ses paroles. Si vous demeurez dans ma parole, verset 32, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Verset 36, si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Alors il est peut-être temps de poser la télécommande par terre, d'éteindre la clim et de nous mettre à l'écoute de cette voix qui, comme un coup de tonnerre, vient ouvrir la porte de cette prison dorée et nous invite à sortir pour connaître la vie véritable. On a vu que les auditeurs de Jésus ont cité Abraham, ils vont le faire à plusieurs reprises d'ailleurs, pour prouver qu'ils ne sont esclaves de rien ni personne. Eh bien Jésus va reprendre cette idée de la descendance, de la paternité, et il va montrer à ses auditeurs qu'ils se trompent tragiquement sur leur situation spirituelle. C'est le deuxième point, à qui ressemblons-nous? Deuxième question. Nous ressemblons tous à nos parents biologiques, au moins dans une certaine mesure. Mais ressembler à ses parents, ça ne se résume pas à des traits physiques. D'ailleurs, on voit bien que les enfants adoptés, même par certains aspects, ils ressemblent aussi à leurs parents. Alors peut-être pas physiquement, mais par la manière de parler, par la manière de se comporter. Le thème de la paternité, il revient à plusieurs reprises dans ce texte. Alors, en fait, ce sont les interlocuteurs de Jésus qui abordent ce thème en premier. Ils se présentent comme la descendance d'Abraham. Et Jésus ne conteste pas que ses interlocuteurs juifs, comme lui d'ailleurs, soient la descendance physique d'Abraham. D'ailleurs, il le dit au verset 37, « Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. » Mais ce n'est pas cette filiation physique qui intéresse ici Jésus. Verset 39, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ait dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Abraham n'a pas fait cela. Les adversaires de Jésus sont peut-être descendants d'Abraham selon la chair, mais ils ne le sont pas par la foi. Alors qu'Abraham a placé sa confiance en Dieu et en ses promesses, eux rejettent celui que Dieu leur a envoyé pour les ramener à lui. Alors si on trouve Jésus politiquement incorrect à ce stade, on n'a encore rien vu. Au verset 41, il dit quelque chose que les interlocuteurs ne vont pas tout de suite comprendre. Vous faites les œuvres de votre père. Alors, de quel père s'agit-il? On va le voir un peu plus loin. Mais bon, ils n'ont pas tout de suite compris. Verset 41, ils lui répondent ceci: « Nous, nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous avons un seul Père, Dieu. » Pourquoi parler ici de la prostitution, etc. Ça paraît bizarre. Il est possible qu'il y ait allusion à une fausse rumeur qui circulait sur une naissance illégitime de Jésus. On sait en lisant l'évangile de Matthieu et de Luc par quel miracle Marie a donné naissance de Jésus alors qu'elle n'était pas encore mariée à Joseph. Mais on imagine volontiers qu'à l'époque, comme aujourd'hui, tous n'étaient pas prêts à croire à cela, à entendre cela. Donc il y avait des rumeurs, on le voit dans certaines sources un peu plus tardives, des rumeurs sur une naissance illégitime. Fausse rumeur, bien sûr. Une autre interprétation, c'est que ses adversaires ici font allusion à une doctrine samaritaine selon laquelle les Juifs étaient des fils illégitimes d'Ève. Et ça pourrait expliquer que quelques versets plus loin, ils accusent Jésus d'être un Samaritain. Bon, on n'est pas sûr, mais en tout cas, ils affirment ici être enfants légitimes de Dieu. Ils font partie du peuple d'Israël, ils font partie du peuple que Dieu a sauvé de l'esclavage en Égypte et qu'il a choisi pour être son peuple. Mais Jésus va à nouveau affirmer qu'il est impossible de connaître Dieu en dehors de lui. Verset 42, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. » Et au verset 44, le point de non-retour dans ce dialogue est atteint. « Vous êtes de votre Père, le diable, et vous voulez faire les désirs de votre Père. Lui, il était homicide dès le commencement, il ne se tenait pas dans la vérité. » Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Jésus dit très calmement quelque chose qui évidemment va profondément scandaliser ses interlocuteurs. Alors qu'ils affirment être les enfants de Dieu, ils refusent d'écouter Jésus, dont les paroles sont les paroles de Dieu. Ils disent aimer Dieu, mais en réalité ils s'opposent à Dieu en s'opposant à Jésus. Et s'ils refusent la vérité, c'est parce qu'ils préfèrent le mensonge selon lequel Jésus est un imposteur. Le mensonge selon lequel c'est leur tradition religieuse, c'est la qualité de leur piété qui leur permettra de connaître Dieu. Alors qu'ils disent être enfants de Dieu, en fait, ils se comportent comme s'ils étaient enfants du diable. En préférant le mensonge à la vérité, ce n'est pas Dieu qu'ils imitent, mais c'est l'adversaire de Dieu. Et nous, à qui ressemblons-nous? Est-ce que nous préférons la vérité de notre dépendance envers Dieu, de notre besoin total de lui et du salut qu'il nous offre en Jésus-Christ? Ou bien est-ce que nous préférons le mensonge de notre autonomie sans Dieu, de notre capacité à construire notre projet de vie par nous-mêmes et nos propres valeurs sans lui? Ce ne sont pas seulement les non-croyants qui doivent être interpellés par ces paroles. Il est frappant que les hommes et les femmes qui s'opposent ici à Jésus sont ceux qui, au départ, avaient, semble-t-il, cru en lui d'une certaine façon. Ça doit nous mettre en garde, nous qui sommes chrétiens. Comprenons-nous bien, la relation authentique avec Dieu que Jésus offre, elle est sûre, elle est inébranlable parce qu'elle est fondée sur son œuvre à la croix pour nous. Si Jésus a décidé de mourir pour nous, il ne va pas changer d'avis. Mais cette relation, lorsqu'elle est authentique, elle se caractérise par un véritable changement de cap de la vie. Et à partir du verset 48, la question se pose de manière de plus en plus aiguë. En fait, c'est la clé de tout ce texte. Qui est vraiment Jésus pour pouvoir affirmer de telles choses? Eh bien, Jésus va répondre à la question dans la dernière partie de ce chapitre. Et c'est notre troisième et dernier point. Qui est vraiment Jésus? La question capitale, donc, c'est de savoir si Jésus dit vrai à son propre propos. Et c'est pour cela qu'il va faire la transition à la fin du texte et il va évoquer la question de son identité. Il commence par dire au verset 44, qu'il n'est pas là pour se glorifier lui-même comme le ferait un gourou, comme le ferait un faux prophète. C'est ce dont il est accusé. Mais en fait, lorsqu'on lit les évangiles, on ne voit jamais Jésus rechercher la facilité ou la popularité. Au contraire, il offense régulièrement ses auditeurs par la radicalité de ses propos, qui sont vrais. La vérité fait mal parfois. pour connaître Dieu, il le répète encore et encore, c'est par lui qu'il faut passer. Et ça commence par une prise de conscience qu'on a besoin de lui. Prise de conscience de notre état de péché, de perdition, un besoin désespéré du pardon de lui, de Dieu. Et ce chemin de vérité que Jésus a martelé, on ne martèle pas un chemin, mais enfin ce chemin de vérité que Jésus a suivi, l'a conduit jusqu'à la croix, où il a payé la dette infinie que nous avions envers Dieu. Alors ce message n'était déjà pas populaire à l'époque de Jésus, on le voit, il est peut-être encore moins aujourd'hui. Méfions-nous des versions édulcorées du christianisme, qui vous disent qu'être chrétien, ça veut dire avoir du succès dans tous les domaines. Il suffit de dire « Seigneur » à la fin de chaque phrase et tout va bien. On peut continuer à vivre selon les valeurs de notre civilisation, chercher en premier lieu le succès professionnel, la santé, voilà, toutes ces choses-là. Mais avec Jésus, avec nous, voilà, c'est comme un plus, on va booster notre vie avec Jésus. Méfions-nous de ce genre de version du christianisme. Jésus n'est pas un plus apporté à notre vie. Il est le Seigneur de l'univers qui revendique toute notre vie. Mais une fois de plus, la question est de savoir si Jésus a le droit de dire cela. Au verset 51, il affirme que ceux qui croient en lui ne connaîtront pas la mort. Ce n'est pas la mort physique dont il parle ici, mais la mort spirituelle éternelle. Quelques chapitres plus loin, Jésus affirmera « Je suis la résurrection et la vie ». Dans la relation avec lui, il y a la vie pour toujours. La vie qui n'évite pas la mort physique, mais qui la surmonte par la résurrection. On aura l'occasion de célébrer cela dimanche prochain à l'occasion de Pâques. Jésus offre à ceux qui viennent à lui la promesse d'une vie indestructible, d'une vie qui triomphera de la mort, d'une vie qui sera une recréation éternelle. On n'est pas surpris qu'une fois de plus, ses interlocuteurs soient scandalisés. Et une fois de plus, ils vont ramener Abraham dans l'histoire. C'est un peu leur idée fixe dans ce texte. Verset 53, « Serais-tu, toi, plus grand qu'Abraham, notre père qui est mort ? Qui prétends-tu être ?» Alors, il lui pose une réponse claire. Il lui pose une question claire, pardon. Et Jésus va leur donner une réponse claire. Je ne vais pas examiner tous les détails du dialogue qui suit, même si ça serait intéressant de le faire dans l'absolu. Mais on arrive en fait rapidement à son point culminant. Et c'est là que l'enjeu fondamental de tout ce texte est révélé au grand jour. Jésus va prononcer une parole qui est à prendre ou à laisser, mais qui n'offre pas de troisième voie. Verset 58. Amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi, je suis. Avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi, je suis. Je me souviens qu'un jour, quelqu'un m'a demandé d'expliquer pourquoi cette phrase était interrompue. « Moi, je suis quoi ?» Et c'est tout à fait logique de se poser cette question. Mais Jésus n'a pas besoin de compléter la phrase. « Je suis », c'est ainsi que Dieu s'est présenté jadis à Moïse, qui lui demandait son nom, Exode chapitre 3. « Qui es-tu, Seigneur ? Je suis qui je suis. » Dieu ne tire son existence de personne. Il est. Point à la ligne. Il a toujours été et il sera toujours. Nous, nous sommes chacun quelqu'un que Dieu a créé et nous tirons notre identité et notre existence de lui. Mais lui, il est en lui-même. Il est la source infinie et éternelle de tout être. Tout ce qui est prend sa source en lui. Je suis. Dieu n'a pas besoin de compléments. Seul lui peut dire cela. Alors ici, il n'y a plus de doute possible. Et d'ailleurs, ça donne un écho à toutes ces paroles en « je suis » que l'apôtre Jean, que Jésus prononce et que l'apôtre Jean rapporte, qui sont d'ailleurs affichées autour de cette pièce. Toutes ces paroles, où on pouvait se demander, est-ce que Jésus parle simplement, il dit « voilà, je suis ceci, je suis cela ». Ici, le doute n'est plus possible. Avant qu'Abraham ne vienne à l'existence, je suis. Pour qui a lu l'évangile de Jean depuis le début, en fait, il ne devrait pas y avoir de surprise. Je cite par exemple Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir et à croire en cette affirmation? Si Jésus n'est pas Dieu, son attitude dans tout ce dialogue est scandaleuse. Il accuse ceux qui rejettent son autorité d'être imitateurs du diable. On comprend qu'il soit vexé. Il affirme que ceux qui croient en lui auront la vie éternelle. Il affirme qu'il est lui-même venu de Dieu et que pour connaître Dieu, il faut le connaître, lui. Et il finit par dire qu'il est lui-même Dieu. Je suis. Il y a un seul scénario où Jésus a le droit de dire tout cela. C'est s'il est effectivement « Je suis l'Éternel, le Dieu de l'univers ». Verset 59. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. La réaction de la foule est parfaitement logique. Aujourd'hui, on ferait autrement, sans doute, on essaierait peut-être d'envoyer Jésus en hôpital psychiatrique. Eux réagissent logiquement, selon la loi de Moïse. Logiquement, si Jésus est un blasphémateur, si Jésus n'est qu'un simple homme qui se prend pour Dieu. Ils ont raison dans tous les scénarios, sauf un. Si les affirmations de Jésus sont vraies, ils ont tragiquement et désespérément tort. Et dans ce cas-là, c'est bien à Dieu qu'ils s'opposent. Voilà l'enjeu pour chacun d'entre nous. Si vous êtes encore en questionnement sur la foi, sachez que être chrétien, c'est croire que Jésus est bel et bien le Fils de Dieu. Entre autres choses, c'est croire cela. S'il s'agit juste d'être gentil, d'être humaniste, de penser qu'il y a peut-être une force au-dessus de nous qui nous veut du bien, ce n'est pas la peine de devenir chrétien. Il y a plein d'autres possibilités. Vous pouvez acheter un livre de Pablo Coelho, par exemple. Peut-être un CD de Jennifer ou je ne sais quoi. Il y a plein de possibilités. Mais la foi chrétienne, ce n'est pas ça. La foi chrétienne, c'est croire que nous sommes perdus et que Dieu est venu nous chercher en devenant un homme dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est croire que Dieu a donné toute autorité à son Fils et que le seul chemin pour parvenir à Dieu, c'est donc de croire au Fils, de lui donner sa vie et de connaître ainsi la vie véritable. Et si on est chrétien, c'est le cas de beaucoup d'entre nous, je le sais, eh bien, être chrétien, il faut bien mesurer ce que ça veut dire. Ça veut dire croire que Dieu, notre Créateur, a tous les droits sur notre vie. Et c'est faire confiance que ces droits, il ne va pas les utiliser de manière néfaste pour nous. Mais c'est toujours pour notre plus grand bien qu'il agit, même lorsque sur le moment, nous avons du mal à le comprendre. Devenir chrétien, c'est entendre la voix de Jésus qui nous dit cette vérité que le monde ne veut pas entendre. La vérité qui nous rend libres. Nous avons un besoin vital de lui. Mais nous trouvons une satisfaction parfaite et éternelle de ce besoin en lui. Amen.